Europe 1.
Europe 1, 10h-11h, Mediapolis. Olivier Duhamel.
Bonjour à tous, et oui, c'est Mediapolis, l'émission sur les rapports entre médias et politiques réalisée par Jérémy Hébert et préparée par Paul Lassène. Avec nous, Alberto Toscano, journaliste italien en France, qui est dans le studio. Bonjour Alberto.
Bonjour.
Et à Berlin, Hélène Kohl, qui j'espère est déjà en ligne.
Tout à fait, bonjour à tous.
Bonjour Hélène. Alors, une petite mise au point avant de commencer cette émission. Des règles sont imposées dans la période dite de réserve par la loi et le CSA qui l'applique, ce qui ne nous permet pas de parler de quoi que ce soit qui ressemble à une propagande pour l'un des candidats ou pour l'une des listes. Donc pas de son de candidat, pas de son de soutien de candidat, pas de propos qui prennent parti ou favorisent un candidat ou en défavorisent un autre. Pas non plus de publication de nouveaux sondages qui auraient été effectués ce matin. Et d'ailleurs, chers auditeurs, je ne les connais pas. Ce qui fait que si vous dites que je raconte ceci ou cela influencé par les sondages, vous n'en savez rien. Bon. Une fois ceci dit, on peut se livrer à des analyses. À des analyses sur les élections européennes, une veille d'élections européennes. Heureusement, il reste encore un peu de possibilités pour la liberté et espère-t-on l'intelligence. À partir de là, nous traiterons certains des sujets d'actualité qui ne sont pas liés aux élections européennes et d'autres qui y seront liés en respectant strictement ces règles, mais pas plus que ces règles. Pour commencer, Canteloup.
La Cour d'appel de Paris a donc ordonné la reprise des traitements de Vincent Lambert. On va demander son avis à un médecin, Philippe Douste-Blazy. Bonjour.
En effet, bonjour. Déshabillez-vous, je prends tout de suite.
Ah non, merci, non, ça ira. C'est pas pour moi. Hein. Je voulais juste savoir s'il fallait laisser vivre quelqu'un qui est dans un état de conscience minimal.
Écoutez, pour ma part, oui, en effet, je le pense. Il faut.
Alors, vous dites ça pour des raisons religieuses, éthiques, des catholiques, je ne sais pas.
Moi. Non, pas catholiques, cathodiques. Cathodiques.
Ah, cathodique.
En effet, vous savez, j'aime bien regarder les anges de la télé-réalité sur NRJ12. Et là-bas, tous les candidats sont dans un état mental encore pire que Vincent Lambert. Kelly et Nabila sont quasiment en état de mort cérébrale. J'ai étudié leur encéphalogramme, électroencéphalogramme. C'est quasiment le même que celui du coquille Saint-Jacques.
Mon Dieu. Et alors ?
Eh bien, ça ne les empêche pas de vivre comme ça, comme tout un chacun. En string avec des tatouages moches, mais ils vivent quand même. Alors, laissez tranquille les personnes en état de conscience minimale, franchement.
Voilà, c'était vendredi 24 mai sur Europe 1, Nicolas Canteloup. Alors au début, quand j'ai lu la transcription faite par Paul Lassène, je me suis demandé, mais qui est en effet ? C'est quelqu'un que je ne connais pas, qui s'appelle en effet, et pas du tout. C'est en effet, Canteloup imitant Douste-Blazy. Alors, à part les blagues, il y a quand même eu une irruption de ce sujet, une invasion de ce sujet dans l'espace médiatique, notamment du fait des avocats. Écoutez, peut-être les propos qui ont le plus choqué de maître Jean Payot, avocat des parents de Vincent Lambert, après la décision de la cour d'appel mardi.
On a gagné ! Ça veut dire que les mesures provisoires vont pouvoir s'appliquer. C'est donc une extraordinaire victoire qui confirme ce que nous disions, que la France est obligée d'appliquer les dispositions de la Convention. C'est donc une grande victoire. Ce n'est que la première des victoires. C'est la remontada.
La remontada, un terme de football quand tout d'un coup une équipe arrive extraordinairement à remonter avant la fin du match. Où est-ce qu'on en arrive, Alberto Toscano ?
Si, c'est aussi un terme d'histoire politique espagnole qui évoque des souvenirs encore plus dramatiques. On arrive au point que tous les sujets liés aux fins de vie sont extrêmement sensibles, ça relève de la conscience de chacun. Il ne faut surtout pas donner à ce sujet, à mon sens, une dimension politique. C'est quelque chose, c'est la morale de chacun et il faut surtout éviter de donner cette emphase, cette, comment dirais-je, populisme moral à ce type d'argument.
Est-ce que, Hélène Kohl, est-ce que c'est un sujet qui enflamme aussi en Allemagne ou beaucoup moins ?
Alors, En tout cas, il n'y a pas eu de cas comme ça extrêmement médiatisés ces dernières années. L'Allemagne a un passé très douloureux avec la relation à la mort des malades, puisque le programme d'euthanasie des nazis a été effectivement une politique d'État pendant le Troisième Reich. Et c'est quelque chose qui marque encore énormément, comme tous les sujets liés au nazisme, la conscience collective allemande. C'est un pays aussi qui est gouverné depuis maintenant 14 ans par une chancelière chrétienne démocrate et donc très empreinte des valeurs chrétiennes. On le voit, ça a potentiel, enfin la femme qui lui a succédé à la tête de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, qui est une catholique très pratiquante. Angela Merkel est protestante. Sur ces deux dossiers, la CDU ne compte pas du tout avancer, que ce soit du côté des catholiques ou du côté des protestants. On ne touche pas au droit à la vie. Et donc, le débat public est assez bloqué par la situation de la CDU actuellement.
D'accord. Et en Italie,
il y a eu un cas, celui d'Eluana Englaro, il y a quelques années, qui s'était soudé par une...
Soudé.
Voilà, grazie. Par une décision de débrancher les machines qui lui permettaient d'être en vie, mais le cas actuel en France est légèrement différent.
Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que ça avait donné lieu à un immense débat,
un immense débat,
une médiatisation et tout ça?
Oui, c'était l'époque de Berlusconi, président du Conseil. Mmh. Le gouvernement était contraire, la justice avait imposé cette décision. Tout le débat sur la fin de vie est encore largement ouvert en Italie, parce que c'est un pays qui est largement influencé par l'Église et le Vatican est contraire à certaines lois comme semblables à celles qui sont en vigueur en France.
Mais alors, ce qui n'a peut-être pas été suffisamment souligné, alors que je pense que ça crée des effets profonds et plutôt négatifs sur le rapport à la démocratie et au droit, c'est quand même la contradiction de décisions judiciaires entre la plus haute instance de la juridiction administrative, le Conseil d'État, et la seconde plus haute de l'ordre judiciaire, la Cour d'appel de Paris. Déjà, c'est une particularité qui n'est pas très répandue dans le monde, d'avoir deux ordres de juridiction, n'est-ce pas, au lieu d'un seul. Mais d'autre part, les gens doivent se dire, mais comment est-ce que c'est possible qu'un juge important dise, mais voilà la conclusion qu'il faut tirer du droit, et le comité de l'ONU, ce qu'il dit n'est pas contraignant. Et puis, quelques semaines après, un autre juge, d'autres juges, qui disent exactement le contraire. Et bon, beaucoup de juristes disent d'ailleurs que la Cour d'appel de Paris, en vérité, a sérieusement bousculé le droit, tout à fait indépendamment du débat sur le fond. C'est-à-dire qu'il n'a pas respecté la décision du Conseil d'État, il n'a pas respecté l'interprétation du Conseil constitutionnel, et dit-on même de la Cour de cassation. Mais, alors d'une part, si vous voulez, la médiatisation du cas, des avocats et tout, l'a emporté sur un début d'analyse juridique, et puis d'autre part, pour tout un chacun, qu'est-ce que c'est que cette histoire où le droit peut vouloir dire noir ou blanc? Alors ça veut dire que le droit c'est n'importe quoi.
Oui,
donc dans
des
temps de défiance, c'est assez grave.
Ça veut dire aussi que ça doit responsabiliser les citoyens et ça dépend de chacun de nous de décider de faire savoir qu'est-ce qu'on veut faire dans le cas de où on serait dans cette malheureuse situation.
Les directives anticipées, absolument, et c'est très facile.
C'est fondamental de le savoir.
C'est très important, et de désigner quelqu'un, une personne de confiance dans ces directives. Et j'ajoute, c'est très facile, hein, vous tapez directives anticipées sur Internet, et après on vous guide, on vous donne des modèles et tout. Je vous le dis parce que ça, je l'ai fait. Ça me permet de dire que je l'ai fait, donc je l'ai fait. Allez, sujet suivant dans quelques instants. Est-ce que un président de la République a raison ou pas de vouloir relire ces interviews? Et qu'est-ce qui se passe en Italie? Qu'est-ce qui se passe en Allemagne? Qu'est-ce qu'en pense Alberto Toscano? Qu'est-ce qu'en pense Hélène Kohl? Tout ça dans quelques instants.
Mediapolis, c'est tous les samedis matins sur Europe 1. Hélène Kohl est la correspondante d'Europe 1 en Allemagne. Alberto Toscano est lui journaliste italien en France. Ils sont aujourd'hui vos deux invités, Olivier Duhamel.
Oui, merci Géraldine. Les vérifications faites, aucune liste n'a choisi la pivoine comme symbole. C'est pour ça qu'on a pu passer la pub qui précédait sur les pivoines. Voilà, sur le bouquet de pivoines. Alors, maintenant...
En France, parce qu'en Europe, peut-être, une liste a choisi la pivoine.
Ah, mais j'ai le droit de parler des listes en Europe, Alberto. Ne vous inquiétez pas. C'est juste sur les 36
donc,
françaises.
Donc, vive la pivoine.
34 françaises, absolument. Donc, ça, c'était pour les pivoines. Alors, maintenant, on revient au président de la République. Alors, ça aussi, on a le droit, parce que, vérification faite, il n'est pas candidat. Ou c'est limite ce que je dis là, mais je crois que ça va encore. Et donc se pose la question de savoir Il y a eu une controverse. Le président de la République a donc donné un entretien à la presse quotidienne régionale dont je ne vous dirai pas un mot. Mais en revanche, il y a eu controverse parce que deux journaux, La Voix du Nord et Le Télégramme, n'ont pas voulu participer à cet entretien parce qu'il y avait une demande de relecture. Alors écoutez un résumé que j'ai trouvé très pertinent d'un de nos collègues de la petite concurrence mais prestigieuse France Culture, Frédéric Seyss, mardi matin sur ce sujet.
Cette pratique de la relecture a-t-elle commencé avec Emmanuel Macron ? Non, et loin s'en faut, les précédents chefs de l'État avaient la même exigence, et à vrai dire, les ministres également. Deuxième question, cette pratique est-elle circonscrite à la politique ? Non, il est courant que les grands patrons ou les vedettes fassent aussi cette demande. Alors s'agit-il d'une tempête dans un verre d'eau ou plutôt dans un verre d'encre ? Non plus. Ce n'est pas parce qu'une pratique est ancienne qu'elle est justifiée, ce n'est pas parce qu'elle est répandue qu'elle est légitime. Car derrière la demande de relecture se cache souvent celle de la réécriture. Certes, la réécriture vise parfois à rendre plus fluide le propos, à ôter des répétitions ou des imprécisions, mais nombre de journalistes de la presse écrite peuvent citer des exemples d'entretiens riches et denses, passés à la moulinette des communicants est revenu vierge de toute aspérité. Dans ce cas, le communiqué de presse ferait gagner du temps à tout le monde.
Alors, Hélène Kohl, est-ce que à Berlin, quand Angela Merkel ou avant Schröder ou avant Helmut Kohl donnait des entretiens à la presse, ils pouvaient demander la relecture à votre connaissance ?
Oui, tout à fait. C'est une pratique que la chancelière utilise à tout tour de bras. Et pas seulement la chancelière, le gouvernement, les députés. Et ça va même assez loin, puisque quand on fait une demande d'interview officielle, il y a souvent même une demande de liste de questions à l'avance.
Donc,
il faut vraiment envoyer des mails. C'est vraiment obligatoire pour la presse, dès qu'il y a une demande d'interview, d'envoyer un mail, une trace écrite. On ne peut pas organiser ça avec l'attaché de presse qu'on connaîtrait depuis longtemps. Il faut envoyer un mail officiel avec, au moins dans les grandes lignes, quelques questions. Et ensuite, après l'interview, effectivement, il faut envoyer le texte qui est relu. Alors, ça pose effectivement des problèmes, évidemment, parce que parfois, ça va un petit peu loin. Et ça va, comme on vient de l'entendre dans l'extrait, parfois même jusqu'à la réécriture de certains passages. Officiellement, les journalistes en Allemagne ne sont pas obligés de fournir les textes à la relecture, mais ça pose évidemment le cas de conscience habituel. Si jamais je ne le fais pas, est-ce que j'aurai de nouveau des interviews, des informations ? Il y a quelques années, en 2003-2004, il me semble, il y avait un journal de gauche qui avait fait un petit peu sensation en publiant une grande interview exclusive de celui qui était à l'époque le patron du SPD, Olaf Scholz, qui est aujourd'hui ministre des Finances.
Oui.
Qui sera peut-être d'ailleurs le prochain candidat du SPD pour le poste de chancelier. Et cette interview avait été publiée avec des grands passages laissés vides ou marqués en noir pour bien montrer aux lecteurs que voilà, nous avons décidé de ne pas publier les corrections officielles apportées par le cabinet de celui qui était à l'époque le patron du SPD.
Ah, très bien. Donc il y a quand même eu des moments où ça a fait controverse. Il faut dire que c'est très intéressant ce que vous nous apprenez, en tout cas à moi et à beaucoup d'entre nous, à savoir que c'est encore plus encadré finalement en Allemagne que chez nous. Donc ce n'est pas un trait particulier d'une monarchie républicaine française. Et en Italie, Alberto Toscano ?
En Italie, c'est plutôt comme en Allemagne, mais il y a quand même des situations particulières. Vous voyez, une interview, et vous le savez très bien, Olivier, est toujours aussi un rapport de force entre le journaliste et la personne interviewée.
Oui, même à Mediapolis, c'est du rapport de force, je vous dis. Et alors ?
Alors, évidemment, si un journal normal italien demande ou étranger demande une interview avec le président du Conseil, celui-ci exigera de relire le texte qui sera publié.
D'accord.
Mais s'il s'agit d'un média auquel le même président du Conseil tient de façon particulière, New York Times, il veut absolument une interview au New York Times, alors il se peut qu'il accepte une situation plus floue, qu'ils acceptent de ne pas relire ce qui sera écrit en faisant confiance au journaliste, parce qu'il veut absolument cette interview. Donc, la règle existe et il y a aussi des exceptions. Ceci dit, dans le cas spécifique de la France, je m'étonne de l'attitude de certains collègues, parce qu'il est évident que les règles doivent être établies avant. Donc, si on décide avant que l'interview sera relue, ensuite, on ne peut pas s'étonner si la personne interviewée demande de relire l'interview. Et si la personne a le droit, déjà concordé avant, de relire l'interview, il ne faut pas s'étonner s'il apporte des corrections.
Mais alors, à la fois, pour conclure sur ce sujet, si vous permettez, je trouve qu'à la fois, c'est un côté presque désuet à l'heure des tweets ou à l'heure des allocutions, à l'heure des interventions orales dans les meetings, au pied levé dans la rue, à l'Assemblée nationale, dans le, à la sortie de l'hémicycle, etc. Parce que par définition, ces interviews orales ne sont pas revues et elles prennent une importance de plus en plus grande et on est beaucoup plus strict sur l'écrit. Donc à la fois, on pourrait dire c'est désuet ou alors, et d'ailleurs ça n'exclut pas l'un l'autre, c'est la trace d'une sorte de respect de l'écrit par rapport à l'oral. Et c'est ça qui me frappe.
Oui, mais chaque interview a son histoire. La phrase qui a été enregistrée à la sortie d'une réunion sera peut-être objet d'une démentie parce que l'intéressé dira que ça a été enlevé de son contexte. Ouais. Là, on parle d'interview officielle. Et dans le cas de l'interview officielle, la règle est celle que Hélène a dit pour l'Allemagne et qui vaut un peu partout.
Parce que là, le contexte est là. Le contexte, voilà. En un seul mot, bien entendu. Alors, pendant ce temps-là, on vote dans certaines parties de l'Europe. On a voté avant-hier, au Royaume-Uni. On a voté aux Pays-Bas. On est en train de voter. On vote ou on ne vote pas. Ce qui veut dire que l'abstention, dont on parle très très souvent aux élections européennes, mérite qu'on y regarde d'un peu plus près sur la géographie de l'abstention et sur son importance par rapport aux autres élections. C'est ce qu'on fait dans quelques instants.
Jusqu'à 11h sur Europe 1, c'est Mediapolis. Olivier Duhamel, nous vous retrouvons avec le journaliste italien en France, Alberto Toscano, et la correspondante d'Europe 1 en Allemagne, Hélène Kohl.
Et oui, et donc demain, nous pourrons comparer le pourcentage de ceux qui sont allés voter au pourcentage de ceux qui ont fêté leur moment, puisque c'est la fête des maires et les élections européennes. Et ça, j'ai le droit de le dire, que c'était la fête des maires en même temps que les élections européennes. L'abstention, pour comprendre l'abstention aux élections européennes, il faut d'abord jeter un petit regard géographique. Parce que les résultats, les taux de participation varient incroyablement d'un pays à un autre. Si on prend les deux extrêmes, aux dernières élections européennes, 87% des Slovaques ne sont pas allés voter, ou si vous préférez, 13% seulement des Slovaques sont allés voter, 13%. Tandis que, par exemple, en Belgique ou au Luxembourg, il n'y a que 10% qui ne sont pas allés voter. Donc, pour simplifier, dans un cas, vous avez 90% des gens qui ne votent pas, et dans l'autre, vous avez 90% des gens qui votent. Alors, évidemment, le chiffre global, du coup, est un peu une caricature. La première question à poser, c'est, et peut-être la plus difficile, du coup je vais commencer par Hélène Kohl, parce que c'est vous qui êtes le plus proche de l'aire géographique dont je vais parler. Comment est-ce que vous expliqueriez que dans l'ensemble, en Europe centrale et orientale, on vote si peu ?
Très bonne question, merci d'avoir choisi pour y répondre. Alors, c'est vrai que moi, j'ai été assez frappée la dernière fois que je me suis rendue en Pologne au cours des derniers mois de voir que l'esprit européen n'est pas très vivant. C'est-à-dire qu'ils en profitent énormément. La Pologne est en plein boom économique. La Pologne se porte bien. Mais voilà, il n'y a pas vraiment... Je me souviens en 2004, au moment de l'ouverture de la frontière entre l'Allemagne et la Pologne, sur ce pont entre Francfort-sur-l'Oder et la ville polonaise de l'autre côté, Subice, il y avait vraiment un vent européen qui soufflait. Et bien, on a vraiment l'impression qu'il est retombé, d'où peut-être ce manque d'intérêt. Alors après, il faut voir, il faut différencier ça, évidemment, pays par pays, en fonction des... En fonction des gouvernements au pouvoir, il y a évidemment depuis la crise des réfugiés ce fameux groupe de Visegrad qui a été créé, donc plusieurs pays de l'Europe centrale qui sont sur une posture extrêmement eurosceptique, voire contre les politiques européennes. Est-ce que ça veut dire qu'ils veulent sortir de l'Union européenne ? Non. Ce sont des gens qui souhaitent absolument rester. Il s'agit de la Pologne, la République tchèque, la Hongrie et la Slovaquie, il me semble. Ces pays veulent rester dans l'Union européenne, mais en revanche, cette envie d'Europe, ce souffle n'est pas là. Et peut-être c'est ce qu'on voit dans les chiffres de participation. Il faut noter toutefois, il me semble que le vote est obligatoire en Belgique, ce qui expliquerait pourquoi la participation était si haute la dernière fois.
Vous avez raison. Bravo, en effet, le vote est obligatoire en Belgique. Il y a une autre raison parfois qui explique une bonne participation, c'est quand les élections sont couplées avec d'autres. Par exemple, en Grèce, les élections européennes sont couplées avec des élections régionales. Par exemple, en Espagne, cette fois-ci, les élections sont couplées avec des élections dans 12 des 15 communautés autonomes et dans les municipalités.
En Allemagne aussi.
Et en Allemagne aussi.
Exactement. On vote. On vote demain pour, dans 10 Länder pour les municipales et on vote aussi dans la petite ville-état de Brême. Et c'est très important parce que Brême est gouverné depuis 72 ans, en fait, non-stop, depuis la fin de la guerre quasiment, par le SPD. Et donc, c'est un tout petit état, mais on va vraiment regarder ça. Ça va mobiliser quand même les électeurs.
Ah oui, donc bien sûr, ça joue aussi. Et alors, en Italie aussi, parce qu'il faut toujours que l'Italie, quand même, il soit un petit peu, Alberto. Alors, en Italie, quoi, vous avez quelques municipales, c'est ça ?
On vote, il y a des élections régionales très importantes à la région du Piémont.
D'accord.
Et là,
il faut dire qu'Alberto vient du Piémont. Hein.
Le résultat est ouvert parce que vraiment, c'est un test important pour l'épreuve de force entre la majorité et de la majorité divisée d'ailleurs, parce qu'au Piémont, ils se présentent l'un contre l'autre. Oui. Les deux partis de gouvernement, la Ligue et les 5 étoiles, il y a un candidat fort du Partito Democratico qui est le président sortant de la région et dont et les jeux sont très ouverts. Et dont il y a en plus des élections dans plusieurs municipalités, dont ces élections européennes en Italie ne sont pas que des élections européennes.
Mais moi je voudrais dire quand même, à contre-courant de tout ce qu'on entend, que quand on voit la complexité du fonctionnement du Parlement européen, la complexité de l'Union européenne dans son ensemble, quand on voit la montée considérable de la défiance à l'égard de la démocratie dans quasiment tous les pays, quand s'il y a encore 42, 44, 45% des électeurs qui vont voter, il faut arrêter de dire que c'est une défiance terrible vis-à-vis de l'Europe et un échec vis-à-vis de l'Europe. Si vous regardez juste deux chiffres, depuis 1979 jusqu'à... Bon, demain, on verra le chiffre exact, mais il va être assez proche du chiffre de 2014. Jusqu'au dernier chiffre connu de 2014. L'abstention a augmenté de 19 points aux élections européennes. Si vous comparez les élections législatives françaises de 1978 à 2017, vous savez de combien elle a augmenté ? De 34 points. Alors évidemment, vous me direz, oui, mais c'est parce qu'il y a les présidentielles avant, mais si, mais ça, c'est parce que si, c'est parce que ça, d'accord. N'empêche que... On n'a pas dit « Ah, l'Assemblée nationale est délégitimée, elle est trop compliquée, les gens ne veulent pas aller voter. » Et on dit ça tout le temps sur l'Europe, alors que la désaffection de la participation aux élections européennes est nettement moindre que la désaffection de la participation aux élections législatives.
Et en plus, Olivier, si vous permettez, aux États-Unis, aux élections pour, de mi-terme pour renouveler une grande partie du Parlement, le niveau de participation est exactement, est plus ou moins égal à celui de participation aux élections européennes. Et personne ne dit que le Parlement des États-Unis n'est pas légal.
Voilà, donc là, on avait le droit de dire ça. On n'a même pas dit aller voter. On a juste dit c'est déjà pas mal qu'il y en ait autant qui aillent voter. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Hein, on est d'accord. Et si on parlait un peu des enjeux européens et au Parlement ? Alors là, ça va être un petit peu plus la corde raide. Hein. Alberto, Hélène Kohl, je compte sur vous. On fait très attention dans quelques instants.
C'est Mediapolis sur Europe 1 et ce samedi 25 mai, Alberto Toscano, journaliste italien en France, et Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 en Allemagne, sont vos deux invités, Olivier Duhamel.
Alors, ces élections européennes, elles ont quelque chose d'absolument nouveau, qui est que on est à peu près certain, à peu près avec zéro risque de se tromper, que l'actuelle majorité des deux grands partis européens gouvernant ensemble, sociaux-démocrates et chrétiens-démocrates, ne se reproduira pas, qu'ils n'obtiendront pas la majorité absolue qu'ils ont aujourd'hui. Autrement dit, qu'il va falloir, il y a deux solutions, soit construire une nouvelle majorité avec les Verts, avec les libéraux, on verra bien, ou ne pas avoir de majorité et fonctionner, comme disait Feu Edgar Faure, aux majorités d'idées, c'est-à-dire au coup par coup. Ce qui veut dire que le vote européen a une importance encore plus grande que d'habitude. Alors, j'ai une question en deux aspects à Alberto Toscano et à Hélène Kohl, c'est est-ce que, très vite, vous êtes d'accord avec cette analyse où j'ai mis le bât blesse quelque part ? Et plus important, est-ce qu'il y a un début de perception de cet enjeu, en tout cas dans les pays que vous connaissez particulièrement, qui sont l'Italie et l'Allemagne ? Hélène, on vient vers vous dans quelques instants, mais pour une fois, je commence par Alberto, parce que la question est assez facile.
Ah, merci. Grazie, Olivier. Elle n'est pas si facile que ça. Alors, on va vers probablement une situation de changement sans grand bouleversement. Changement signifie, comme vous venez de dire, la majorité traditionnelle axée sur le Parti populaire et les socialistes va être modifiée, va être mise en discussion, finira dans le sens traditionnel de ce terme. On va vers une situation où il y aura des majorités à géométrie variable, mais il y aura quand même aussi un élargissement, j'imagine, de la situation traditionnelle en direction des libéraux et en direction des verts. Ceci dit, comme vous savez parfaitement, au Parlement européen, il y a une majorité de base, il y a des majorités différentes sur la base des sujets, et il y a surtout l'influence de cette majorité qui est fondamentale en Europe et la majorité des États. Le rôle des États sera encore, risque d'être encore plus important de ce qu'il a été pendant la dernière législature européenne. Donc il y a ces différentes combinaisons de majorités qui se croisent et s'additionnent l'une à l'autre.
On comprend que ce soit compliqué pour les citoyens de toujours suivre. Hélène Kohl.
Alors oui, pour la perception de l'enjeu, parce que l'Allemagne connaît en fait ce fonctionnement européen, puisque c'est un petit peu le modèle du Bundestag, avec le modèle des majorités. L'Allemagne est gouvernée actuellement dans un système de grande coalition qui est de facto ce qui était le cas jusqu'à présent, depuis 1979, au Parlement européen.
Absolument.
Donc déjà, il y a une culture politique parlementaire qui est différente de celle que peuvent connaître les électeurs français. Donc déjà, il y a cette perception. Et puis, cette fois-ci, il y a le principe des Spitzenkandidaten, c'est-à-dire que chaque groupe politique européen a désigné avant les élections la personne qui devrait être le prochain président de la Commission en fonction de la majorité qui sort du Parlement. Donc, et ça, c'est très important parce que cette fois-ci, en Allemagne, parmi les têtes de liste des partis allemands, on a deux Spitzenkandidaten qui donc postulent pour devenir président de la Commission, futur président de la Commission. Chez les Verts, Ska Keller, qui dirigeait déjà le groupe des Verts au Parlement lors de la dernière législature. Et puis, Manfred Weber, qui est le candidat commun, et ça, c'est une première, commun à la CDU et à la CSU, c'est-à-dire les conservateurs allemands ensemble, on choisit un candidat qui sera, qu'ils espèrent, effectivement, c'est tout le pari d'Angela Merkel et de la patronne de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, c'est leur pari, c'est de dire que cet homme pour lequel ils appellent les électeurs allemands à voter pourrait être le prochain président de la Commission. Donc il y a
mais
vraiment une démocratisation.
Si vous permettez, Hélène, juste sur ce point, moi j'ai cru comprendre, un, que Angela Merkel était dans le soutien minimal, deux, que Emmanuel Macron a dit qu'il ne voulait pas en entendre parler, et trois, que beaucoup de voix disent que Manfred Weber manque de charisme. Donc, ce n'est pas aussi déterminé que ça, quand même.
Alors, vous avez trois fois raison. Effectivement, Angela Merkel, de toute façon, est en retrait pendant toute cette campagne électorale. Elle n'a participé qu'à un seul meeting, c'était le meeting hier soir à Munich, derrière Manfred Weber. Et c'est par hasard si on est à Munich, puisque Manfred Weber est un Bavarois.
Oui.
Deux, vous avez raison. Et Emmanuel Macron ne s'est pas prononcé, on ne sait pas le groupe éventuel qu'il pourra rejoindre au Parlement européen, donc il ne s'est pas prononcé pour un Spitzenkandidat. Et puis effectivement, Manfred Weber, il est encore un petit peu jeune, il a une expérience de député européen, il n'était pas du tout connu quasiment ici en Allemagne, même en Allemagne avant cette élection, donc il faut voir comment il va pouvoir, effectivement dans le cadre de ce nouveau Parlement européen qu'il faudra repenser, comment il va pouvoir former une coalition. Parce qu'en fait, ici en Allemagne, on le voit bien, celui ou celle qui devient chancelier ou chancelière, c'est celui, pas forcément obligatoirement celui qui est le plus fort à la sortie des sondages, à la sortie des élections, c'est celui qui arrive à former une coalition. Et donc ça va être le vrai enjeu à partir de lundi. Comment les groupe européen et comment les élus au Parlement européen vont s'organiser, se regrouper pour former une majorité. Et ça, je pense que... Alors, je mens sans doute un peu en disant que tous les Allemands ont compris qu'il y avait ces enjeux-là. En revanche, du fait même qu'on avait, dans la course politique allemande, deux candidats à ce poste,
oui.
Il y a eu quand même une forme de pédagogie autour des élections et aussi le sentiment, je pense, de dire « Ah ben en fait... je vote pas pour rien, je vote pas pour un machin, pour reprendre une expression. Voilà, je vote, en fait, mon vote peut avoir une vraie influence sur la politique future de la Commission européenne,
d'accord.
Sachant toutefois que cette commission est quand même nommée par les chefs d'État, effectivement.
Donc oui, mais doit être confirmée par le Parlement. Donc cette conscience est plus grande en Allemagne que, par exemple, Dans d'autres pays. Je dis juste que dans d'autres pays. Allez, maintenant, il s'est passé aussi quelque chose de très important hier. C'est l'annonce de la démission de Theresa May. Et donc ça, on y vient dans quelques instants.
Chaque samedi de 10h à 11h sur Europe 1, vous écoutez Mediapolis. C'est avec vous, Olivier Duhamel. Vous êtes ce matin avec vos deux invités, Alberto Toscano, journaliste italien en France, et Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 en Allemagne.
Et Géraldine, chaque samedi sur Europe 1 de 10h à 11h, en général, on est obligé de relever un fait qui est un peu plus inquiétant sur l'état de défiance à l'égard de la démocratie. Et peut-être que là, c'était pas tellement le fait que l'image, enfin le fait bien sûr, la démission de Theresa May bien sûr, mais elle est peut-être très, même très tardive après tous ces échecs successifs, mais la fin de son allocution dans laquelle elle annonce devant le Downing Street qu'elle va se retirer le 7 juin, où elle n'arrive pas à retenir une larme. Et là je crois qu'on a rarement vu, voire jamais, un Premier ministre pleurer en annonçant sa démission. Écoutez, Theresa May, c'était hier matin sur Europe 1. Hier sur Europe 1.
J'ai fait tout ce que j'ai pu pour convaincre les députés de soutenir mon accord. Malheureusement, je n'y suis pas arrivée. Donc je vous annonce aujourd'hui que je vais démissionner de mes fonctions de leader du Parti conservateur et unioniste. Je vais bientôt quitter ce poste qui a juste été l'honneur de ma vie. La deuxième femme première ministre, mais certainement pas la dernière. Je le fais sans amertume, mais avec beaucoup de gratitude d'avoir eu l'opportunité de servir le pays que j'aime profondément.
Vous avez entendu les derniers mots. To serve the country I love, c'est-à-dire elle les dit vraiment dans un sanglot. Cette démission de Theresa May... Est-ce qu'elle a occupé un peu les esprits en Italie? Est-ce qu'il y a quand même eu une attention portée à ça, ou on est blasé de tout?
Non, il y a beaucoup d'articles dans la presse italienne d'aujourd'hui à ce sujet. Et évidemment, en voyant cette larme, on se dit quand même qu'il y a un peu d'humanité parfois dans la politique. La faiblesse de cette femme au moment de quitter, la faiblesse humaine, montre que la politique est dure et parfois ça donne des réactions sur le plan humain assez émouvante et émue. Et je crois qu'au-delà de ça, il y a une leçon qui est soulignée aujourd'hui par les médias italiens, c'est-à-dire, après l'expérience britannique si dramatique et si dramatisée, il est évident que pour n'importe quel pays, et surtout dans le cas des pays de la zone euro, ce qui n'est pas le cas britannique, mais ça amplifierait les conséquences, il est impossible de sortir de l'Union européenne. Donc, tous ceux qui parlent d'Italie, Brexit, ou de Frexbit, Brexit, tous les Brexit,
Frexbit,
que
Frexbit,
Exit, tout ce qui se termine par Exit ne marche pas.
Ouais.
Comme ça a été très difficile, et on ne sait pas comment est-ce que va se terminer pour la Grande-Bretagne, ça serait encore plus difficile pour l'Italie, pour la France et pour n'importe quel autre pays de l'Union européenne. Donc, dans cette union, il faut rester, on restera, et il faut essayer quand même de la rendre un peu mieux de ce qu'elle est aujourd'hui.
Et Hélène, en Allemagne, brièvement?
Alors oui, effectivement, ça a fait la une hier, évidemment. L'Allemagne a une position très controversée sur cette question du Brexit, parce que l'Allemagne ne veut absolument pas que la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni s'en aillent, puisque les économies sont extrêmement liées. On a évalué que l'Allemagne serait sans doute le pays qui... aurait le plus de difficultés économiques après un départ du Royaume-Uni, ce qui fait qu'on a quand même généralement, c'est la position d'Angela Merkel à la plupart des sommets européens, elle appuie sur la pédale du frein pour repousser au plus tard cette position, ce départ des Anglais. Cela dit, le vote a été validé, reconnu par les Allemands, et comme le dit Alberto, c'est effectivement le cas, on a vu disparaître du discours politique la tentative, encore petite ici, du parti AfD de demander un Dexit, donc une sortie de l'Allemagne, d'abord de la zone euro, puis éventuellement de l'Union européenne. C'est encore
AfD,
dans leur programme.
Le parti AfD, Alternative für Deutschland, qui est le parti récent surgi à la droite de la droite, sur une position nationaliste eurosceptique, et qui avant était sur la sortie officiellement sur la sortie de l'Allemagne, si je ne me trompe pas.
Sur la sortie de la zone euro, dans un premier temps, un rejet de l'euro. Hein, c'est le parti a été créé sur un rejet des politiques liées à l'aide à la Grèce. Ensuite, avec la question migratoire, le parti a fait un virage beaucoup plus, je dirais, classique. C'est un parti d'extrême droite nationaliste, patriote, ultra-droite, appelez ça comme vous voulez. Un parti d'extrême droite. Il avait à ce moment-là évoqué, au tournant des années 2015, 2016, 2017, la possibilité de faire un Dexit, sortir carrément de l'Union européenne. C'est toujours dans ses programmes, mais c'est évidemment pas du tout mis en avant en ce moment. du fait du contexte britannique.
C'est un des paradoxes de l'évolution des attitudes et des opinions à l'égard de l'Europe, c'est que l'idée de quitter l'Europe recule, et là, donc l'attachement à l'Europe de ce point de vue augmente, et les critiques à l'égard de l'Europe augmentent en même temps. Et pendant ce temps-là, les campagnes sont aussi assez largement nationalisées. On y revient dans quelques instants.
Merci d'écouter Europe 1, c'est Mediapolis jusqu'à 11h. Et aujourd'hui, Olivier Duhamel, vous recevez le journaliste italien en France, Alberto Toscano, et Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 en Allemagne.
Alors, Hélène Kohl, vous êtes correspondante pour nous en Allemagne depuis une quinzaine d'années, donc vous suivez de très très près aussi les élections européennes. Alberto Toscano, je ne voudrais pas vous demander depuis combien d'années vous suivez les élections européennes, parce que comme moi...
Depuis 79.
Ah bon, alors ça va. Oui.
Depuis la première.
Depuis la première. Ma question est... J'entends dire deux choses un peu contradictoires sur ces élections. Les uns disent, mais c'est quand même la première fois que les enjeux européens ont occupé une telle place, qu'on a autant parlé de l'immigration, des populistes, de Frontex sur l'immigration, de ce que l'Europe doit faire, peut faire, de est-ce qu'elle doit pas avoir une politique commune de l'asile, etc. etc. Et donc, on a la naissance... D'un vrai débat européen, d'un vrai enjeu européen, ce qui réjouirait les philosophes comme Habermas et tous ceux qui espéraient l'avènement d'un espace public européen. Et puis d'un autre côté, une voix un peu contraire qui dit, mais une fois de plus, ce sont les enjeux nationaux qui l'emportent. Et puis les enjeux nationaux démultipliés, c'est-à-dire que pour les grandes listes, les moyennes listes, les petites listes, c'est qui va être devant qui va être devant qui va être devant qui, et on ne parle que national. D'abord, laquelle de ces deux thèses vous semble la plus pertinente, Hélène Kohl ?
Alors ici, en tout cas en Allemagne, clairement, j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même un débat, une campagne qui était plutôt européenne. Hein. C'est lié notamment à la présence de Spitzenkandidat, mais c'est lié au fait que on avait, vous savez, ici en Allemagne, on n'a pas de seuil pour envoyer des députés au Parlement européen cette fois-ci. La prochaine fois, ça sera le cas. Il faudra au moins 3%, peut-être même 5%. Là, ça n'a pas encore été fixé. Du coup, on a pléthore de listes. Hein. On a 41 listes. Le bulletin électoral des Allemands demain, en fait, c'est une sorte de rouleau, un papyrus qu'il faudra dérouler. Il fait presque un mètre de long et il faudra mettre sa croix devant une des listes. Et donc, du coup, tous ces petits partis, on ne connaît pas du tout au niveau national, se sont vraiment greffés sur le thème de voilà, nous on pense que c'est en Europe qu'on peut faire bouger les choses, et c'est pour ça qu'on a eu une campagne un petit peu plus européenne que d'habitude. Cela dit, faut pas se leurrer, on va scruter essentiellement demain les résultats des grands partis qui jouent un rôle au niveau national.
Et j'ai cru comprendre même qu'un des enjeux principaux c'était de savoir si les Verts se verraient devant le SPD, die Grünen, donc les Verts devant les sociaux-démocrates ou l'inverse.
Alors effectivement, alors ça c'est très intéressant, c'est quand on a demandé aux Allemands quels sont les thèmes les plus importants pour eux dans cette campagne, ils ont placé très loin devant, à plus de 80%, la question environnementale et l'urgence climatique. Ils pensent, et c'est la question de la population allemande, estime que ces questions-là ne peuvent être résolues que d'une manière globale, et donc que le vote pour les élections européennes est en ce sens absolument fondamental. Ce qui a effectivement porté les Verts sont actuellement dans les derniers sondages, je crois que je peux donner les sondages en Allemagne, il me semble.
Oui, vous avez le droit, oui.
Voilà, dans les derniers sondages, les Verts sont effectivement devant le SPD.
En Allemagne, globalement, on précise bien.
Voilà. En Allemagne, effectivement, les Verts sont autour de 20%, le SPD est autour de 18%. On va voir comment ça se concrétise. Il y a eu, et ça c'est très intéressant, au cours des deux derniers jours, des offensives de la jeunesse allemande sur YouTube. Il y a eu deux vidéos, dont une vue 7 millions de fois par un jeune YouTuber de 26 ans avec des cheveux bleus qui s'en est pris d'une manière absolument... il déchiquette en petits morceaux la politique climatique de la CDU, mais aussi du SPD, puisque la CDU et le SPD gouvernent ensemble ici en Allemagne, sous la houlette d'Angela Merkel au gouvernement. Et donc, du coup, ça a été repris hier par 70 YouTubers, des stars parmi la jeunesse allemande, pour effectivement dire aux gens, ne votez pas CDU, ne votez pas SPD, il faut sauver le climat.
Bon, c'est
un petit peu une manière de dire votez les Verts. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu ce matin un sondage, pas représentatif, mais quand même très important, sur la base de plus de 50 000 jeunes électeurs de 18 à 23 ans. Et c'est une gifle pour les partis de la Grande Coalition qui sont tous les deux à moins de 5%. 5% auprès de la jeunesse allemande.
Merci infiniment. En plus, je pense à une telle vitesse que je n'ai pas pu vous évoquer. Le milkshake party, alors que Alice Baudry avait repéré un formidable papier dans Patriotico sur l'avènement du milkshake party. Vous savez, le parti qui a envoyé un milkshake à Mike Farage. Et voilà, au moins vous savez l'essentiel qu'il y a eu cet événement et que du coup, il y en a qui s'amusent à en créer un parti dans la... Dans la foulée de l'histoire de l'Antartrage, qui est une longue histoire. Merci à Alberto Toscano, merci à Hélène Cole. Juste d'un mot, Alberto Toscano, en Italie, plus européen, plus national. Je dis bien en un mot, trois, cinq.
Alors, en Italie, il y a un sujet européen, la question migratoire, oui, qui se croise, un sujet national, parce que ces élections sont les tests pour voir, pour juger un gouvernement composé par la Ligue et par les 5 étoiles qui est au pouvoir depuis exactement un an. Et je termine rapidement.
Non et c'est parfait parce que pour une fois en Italie, c'est plus simple puisque l'enjeu européen est le même que l'enjeu national. Alors pour terminer, une chanson, quelle chanson? Bon d'abord, compte tenu des règles du CSA, on est allé chercher un Néerlandais. Pourquoi? Parce que les Néerlandais ont déjà voté. Donc on ne peut pas dire que le choix de la chanson va peser sur le résultat des élections. Ce n'est pas de la propagande. Quelle chanson d'un Néerlandais? Eh bien celui qui a gagné l'Eurovision, parce que ceux qui ont suivi jusqu'au bout ont été contents et seront ravis de la réécouter. Et ceux qui n'ont pas écouté du tout, ça leur fera quand même un peu bien de la connaître. Duncan Lawrence, Arcade. Voilà, c'était Mediapolis. On se retrouve samedi prochain où on pourra vous en dire encore plus sur les résultats des européennes, évidemment, puisqu'on aura voté et qu'il n'y aura plus de règles. Car je le rappelle à ceux qui l'auraient, il n'y a pas de second tour. Merci à Alfredo Toscano, merci à Hélène Cole. Vous pouvez faire écouter l'émission en podcast sur Europe1.fr. Si je facilite, il suffit de taper Europe1.fr, podcast Mediapolis. Vous pouvez aussi venir à la soirée européenne que nous organisons demain avec Europe 1 et vous pouvez vous inscrire jusqu'à demain après-midi. Et là aussi, c'est facile parce qu'il y a des hashtags, des trucs, des machins. J'y comprends rien, mais vous tapez soirée européenne Sciences Po et ça vous guide. Et on fait ça avec Europe et on vous remercie tous.